Chapitre deuxième. Les heures de consultation de M. Bardière étaient de 1 heure à 3. 3 heures allaient bientôt sonner, et le grand salon d'attente était presque plein. Le vieil hôtel où, depuis quelques années déjà, depuis sa grande vogue de spécialiste pour les maladies du foie et de l'estomac, le docteur Bardière avait trouvé une installation spacieuse et commode, était situé dans la rue du Bac, tout au fond d'une vaste cour adossée à un assez grand jardin. Le docteur et sa femme n'occupaient pas tout l'hôtel, qui était immense, mais ils avaient 3 belles pièces au rez-de-chaussée donnant sur le jardin et réservées au docteur. Tout le premier étage formait leur appartement. Les groupes silencieux attendaient toujours dans le salon, une grande pièce sévère et un peu triste. De belles boiseries Louis XVI, finement sculptées, montaient jusqu'au plafond qui était très haut. Au-dessus des portes, de vieilles peintures du temps se trouvaient encadrées dans les boiseries et paraissaient très noires contre ces boiseries blanches. Les meubles avaient été choisis avec soin et dataient tous de la même époque. Les clients du grand médecin, parqués ensemble, ne se parlaient guère. On eût dit des personnes conviées à un enterrement et à qui la présence du mort imposait un lourd silence. Il y avait un vieux monsieur qui tirait sa montre toutes les 5 minutes. Une mère encore jeune qui tenait sur ses genoux un pauvre enfant au teint jaune, dont le foie avait grossi hors de toute proportion, et que le docteur avait juré de sauver. Des hommes, des femmes, de vrais malades, à l'air anxieux, aux traits tirés, attendaient toujours, avec une souffrance très patiente. De temps à autre, la porte s'ouvrait, et chacun, à tour de rôle, entrait dans le cabinet de consultation. D'autres malades arrivaient, s'installaient. Le petit mouvement qu'ils apportaient dans ce salon, comme figé, s'apaisait vite. Alors on n'entendait plus que le froissement de journaux qu'on dépliait, le gémissement sourd de l'enfant malade, ou les soupirs d'impatience du vieux monsieur qui tirait sa montre. Parfois les consultations duraient assez longtemps, souvent elles étaient très courtes, et peu à peu le salon d'attente fut moins encombré. Le docteur qui, ainsi d'intervalle en intervalle, ouvrait la porte de son cabinet pour y laisser pénétrer un nouveau malade, ne ressemblait pas beaucoup au médecin de Luchon. Quoiqu'il n'eût pas 50 ans, ses cheveux très abondants étaient complètement blancs, mais les yeux restaient fort vifs. La moustache, il ne portait plus toute sa barbe, encore noire, donnait quand même un air de vigueur, presque de jeunesse, à cette tête pleine d'énergie. Les femmes trouvaient le docteur à la mode très bel homme. Il était encore maigre, il ne l'était plus d'une façon disgracieuse et osseuse, mais avec recherche, il se vengeait de ces redingotes ridicules faites par un tailleur des Pyrénées. S'il était un peu brusque de manière, cette brusquerie s'allait bien avec son apparence superbe d'homme fort et vigoureux. On disait bien dans le monde que pendant des années, le docteur Bardière avait jeté beaucoup de poudre aux yeux, que s'il était incontestablement très habile médecin, il ne dédaignait pas une pointe de charlatanisme. Mais comme il avait un certain nombre de cures célèbres à son actif, comme depuis son premier succès retentissant, la vogue s'en mêlant, il était devenu un des premiers spécialistes de Paris, la rumeur s'apaisa. Le succès n'est-il pas la première des supériorités? Le docteur Bardière examinait l'enfant malade. Cette cure lui tenait au cœur, car des confrères l'avaient déclaré impossible. Pendant qu'il questionnait la mère, un petit grattement à une porte lui fit lever un instant la tête, mais il continua avec calme ses questions et le léger bruit ne se fit plus entendre. La consultation dura encore quelque temps. Lorsqu'elle fut terminée, le docteur reconduisit la mère et l'enfant à travers la 3e pièce qui servait d'antichambre et revint sur ses pas. Au lieu d'aller appeler un nouveau client, le docteur se dirigea vers la petite porte où s'était fait entendre le léger grattement. Cette porte ouvrait sur l'escalier intérieur communiquant avec l'appartement du premier. « Qu'y a-t-il ? » fit le spécialiste, non sans une légère irritation. « Tu sais que je n'aime pas être dérangé pendant la consultation. » Mais la femme qui l'avait dérangé ne s'émut point de cette réception. Elle avança, souriante et superbe. Les 11 années qui s'étaient écoulées depuis une nuit de tempête dans les montagnes avaient mûri la belle Madame Chabriard, devenue Madame Bardière, mais n'avait guère altéré sa beauté. Elle se trouvait en toilette, car c'était son jour. Sa robe de jais lui allait à merveille et faisait ressortir son teint de blonde, ses beaux cheveux où aucun fil blanc ne se voyait encore, l'éclat de ses yeux. Elle était belle, d'une beauté calme, sculpturale, un peu froide et dure. Madame Bardière était, dans le monde parisien, infiniment respectée. Mais elle n'y avait guère d'intime. « J'ai une trop bonne nouvelle à t'apprendre pour la différer, et j'avais peur d'être prise par des visites. Il est presque l'heure. Julien a débarqué. » « Julien ?» Le docteur était transfiguré. Il rayonnait de joie. « Ne peux-tu renvoyer ces gens-là ?» Et Madame Bardière jeta un regard vers le salon d'attente. Le docteur hésita, puis tira sa montre. Il était juste 3 heures. Il sonna le domestique et lui donna un ordre. Bientôt, on entendit à côté un bruit de chaises remuées, un murmure de voix, puis le son de pas lourds et découragés qui lentement se mouraient. Avoir attendu si longtemps pour être renvoyé à la fin, le docteur imposa silence à sa femme tant que dura le bruit. Le domestique ayant reparu, son maître demanda si le coupé attendait dans la cour, puis il le congédia. Ce ne fut que lorsque le domestique eut fermé la porte que le docteur se retourna vers sa femme. C'était un homme qui apportait de la méthode en toutes choses. « Enfin, quand est-il arrivé? Sera-t-il ici ce soir? Que tu es gentil d'être descendu. » Et il l'embrassa. « Le baiser est-il pour ton fils ou pour moi ?» Elle sourit à nouveau en le regardant. Elle savait bien que, malgré l'affection paternelle très vive chez cet homme, le baiser était bien pour elle. Il se trouvait tant de choses dans leur union, un aimant si fort, que jamais cette union n'avait été menacée. Aussi, sans s'arrêter à sa question, elle continua avec son beau calme. « La dépêche, que voici du reste, n'entre pas dans ces détails. Il est probable cependant qu'il ne pourra être ici que demain. Mais au moins nous le garderons longtemps cette fois. » Le docteur parcourait la dépêche, puis tira encore une fois sa montre. « Je suis appelé en consultation à Passy. Il faut que je parte. En revenant, je passerai tout de même à la gare, au moment de l'arrivée de l'express. » « C'est Aline qui va être contente, » dit la mère d'Aline. « Aline, oui, sans doute. » Le front du docteur se rembrunit. Madame Bardière avait franchement adopté le fils de son mari. Entre Aline et son beau-père, lorsqu'il n'y avait pas de lutte ouverte, l'antipathie existait quand même. « Voyons, mon ami, voilà 3 jours seulement qu'Aline nous est revenue et déjà la paix est bien menacée. Est-ce ma faute? N'ai-je pas tout fait pour gagner l'affection de ta fille? Je lui ai sauvé la vie à force de soins. Qui le sait mieux que toi? Et même dans son délire, elle me jetait sa haine à la figure. La haine d'un enfant de 7 ans. N'ai-je pas, durant les années qui se sont écoulées depuis, cherché à être un père pour cette petite fille, et avec quel succès? Lorsque par hasard je la frôle, elle se jette de côté, comme si mon approche la souillait. Elle a une façon de me regarder d'un air qui questionne, qui défie. On dirait positivement que... » Le docteur s'arrête à court. Il avait été plus loin qu'il n'aurait voulu. Sa femme s'était levée et se tenait devant lui. Pendant quelques instants, ils restèrent immobiles tous deux, se regardant. « N'est-ce pas ? » dit-elle enfin, répondant à la pensée de son mari plus qu'aux mots prononcés par lui. Elle parlait très bas. « N'est-ce pas ? Tu te rappelles de quel ton elle appelait son père pendant cette terrible maladie ? Quelquefois, j'aurais juré qu'il lui était apparu et qu'il lui avait tout appris. Quelle folie ! « Toi, une femme supérieure, t'abandonner à de pareilles chimères, du reste. » Puisqu'après la fièvre cérébrale, la mémoire avait à peu près disparu, puisqu'elle ne reconnaissait même plus sa bonne, qu'elle avait tout oublié, jusqu'à ses lettres. Mais la mémoire de son père avait surnagé. Un souvenir bien vague. « Qu'as-tu aujourd'hui, ma chérie? Que fais-tu de ce beau calme que j'admire tant? Bon, le passé est le passé. Il faut arriver à l'oublier tout à fait. » Nous avons fait peau neuve. Ça n'a pas été facile, mais la chose est accomplie. Nous touchons au but. Ne regardons pas en arrière. Je te l'ai dit souvent, je n'ai pas de remords. La mort était sûre, et une mort nécessairement précédée de souffrances atroces. Voyons. Il me faut voir ton sourire avant que je ne parte. Ton sourire si vaillant, qui tant de fois m'a donné le courage dans une lutte terrible. Nous avons souffert ensemble. « Ma chère femme, nous avons peiné ensemble, nous avons espéré ensemble, et maintenant, pourquoi ne pouvons-nous pas, en paix, jouir ensemble de notre succès et travailler ensemble à ce qui reste à faire ?»« Pourquoi ?» murmura-t-elle, mais le sourire vint tout de même aux lèvres pâlies. Alors, répondant aux dernières paroles de son mari pendant qu'elle l'aidait à mettre son pardessus, Tu y tiens beaucoup, à ce qui reste à faire ? Le docteur se retourna presque brusquement et regarda sa femme bien en face. « J'y tiens plus que jamais, il faut que ce soit. »« Tu n'aimes pourtant guère ma fille. »« Ce n'est pas une question de sentiment, ma chère amie. » C'est la seule façon de faire entrer chez nous la fortune qui t'a été volée. Il faut que cela se fasse. Ce sera peut-être difficile, puis quoi ? Mais Madame Bardière ne répondit pas. Ce qu'elle eût voulu dire lui resta dans la gorge. Les lèvres se décoloraient. Le docteur fit un léger mouvement d'impatience. Qu'avait donc sa femme ? Ce n'était que lorsque la présence d'Aline réveillait des souvenirs importants que cette femme si forte, sûre d'elle-même, calme et majestueuse, se laissait aller à des terreurs sans nom que rien ne justifiait. Le mieux était de ne pas chercher à la raisonner. Le docteur savait mieux que personne que ses faiblesses étaient passagères comme elles étaient rares. Il savait qu'au retour de la consultation, il retrouverait sa femme maîtresse d'elle-même, qu'il verrait en elle une des femmes de Paris que l'on admirait et que l'on respectait le plus. Le passé était le passé et il était bien mort. Quant à lui, il allait droit son chemin. L'imagination ne le tourmentait pas, et selon lui, les remords appartiennent au domaine de l'imagination. On vint annoncer à Madame Bardière qu'elle était attendue au salon. Le docteur la quitta, sans revenir sur le sujet brûlant de leur conversation, pleine de sous-entendus. Mais la joie qu'il avait ressentie à l'idée de revoir son fils était assombrie par les pensées que cette conversation avait réveillées. Aline était la cause de cet assombrissement, comme elle était la cause, volontaire ou involontaire, de tout ce qui lui arrivait de déplaisant. Dans son coupé, correct et élégant, il songea aux années qui venaient de s'écouler. La mort de M. Chabrière avait produit peu d'émotion dans le pays des montagnes neigeuses, où il était peu aimé. On le savait très malade. On apprit vaguement qu'au milieu de la nuit, il avait été repris de son mal. Les uns croyaient qu'il était mort de cette nouvelle crise, d'autres, mieux informés, parlèrent d'un flacon de chloroforme renversé. Pour soulager des douleurs atroces, il en avait aspiré plus que de raison. En somme, tout cela importait peu. Il y eut les constatations d'usage. Au petit matin, on avait couru chercher le jeune médecin qui soignait le châtelain, et on le trouva, comme du reste il l'avait annoncé lui-même, la veille auprès d'un paysan malade. Ce qui intéressait bien plus le petit monde des environs que la mort du père, ce fut la maladie, aussi terrible que subite, de l'enfant, de la gentille Aline, le rayon de soleil du vieux Castel. Le médecin avait disputé cette vie avec un dévouement sans bornes. Il avait fait là son devoir vaillamment. Et cependant, si l'enfant eût succombé, que de choses se seraient trouvées simplifiées. La mère hérite de son enfant, Madame Chabrière, à qui son mari n'avait rien laissé, qui ne possédait que les 200 000 francs reconnus par contrat de mariage, aurait été du coup fort riche, et bercé par le mouvement de son coupé, le spécialiste se rendait à lui-même cette justice. Il avait lutté contre la maladie comme si la maladie eût été son ennemi au lieu de son ami, et il l'avait vaincu. Il en avait été bien récompensé. Du naufrage de la petite intelligence d'Aline, il avait surnagé deux choses, le souvenir de son père, une haine instinctive, irraisonnée, terrible pour celui qui, un an après, devint son beau-père. Dès qu'elle fut en état de voyager, la petite malade avait été transportée en Italie, puis en Suisse. La mère, terrifiée, guettait le retour lent de la vie, le nouvel éveil d'une intelligence qu'il fallait diriger comme celle d'un enfant de 2 ans. La gaieté tapageuse de ce petit être ne revint jamais, mais peu à peu, avec la santé physique, la santé intellectuelle se raffermit, la mère respira. Lorsqu'installés ensemble à Paris, la mère d'Aline dit à l'enfant d'embrasser le docteur Bardière, qui voulait bien être son père, la petite fille se recula, regarda hardiment l'homme grand, maigre et noir qui se penchait vers elle et dit « On peut donc avoir 2 papas ?» Mais elle ne parut nullement surprise. Du reste, les enfants sont rarement étonnés. Ils vivent dans un monde à eux, peuplés de choses extraordinaires qui font paraître les événements de la vie très peu intéressants. L'homme qui faisait plier devant lui les difficultés de la vie, qui à force de volonté, d'énergie, de courage, avait réussi là où beaucoup tombent en route, n'avait pourtant jamais pu, malgré tous ses efforts, vaincre la répugnance de cette petite fille frêle, blonde, que de ses doigts osseux il eût pu briser sans peine, et il lui en voulait mortellement. À mesure qu'Aline grandissait, la vie commune devint impossible. On mit la petite fille dans un excellent pensionnat près de Paris où elle fut très heureuse. Au milieu de ses compagnes, Aline redevint ce que la nature avait voulu qu'elle fût, gaie, aimante, douce, maniable, bien vivante et bien féminine. Tout le monde se trouva satisfait de cet arrangement, même Madame Bardière, lassée des luttes incessantes de son intérieur troublé et qui, par degrés, s'était un peu détachée de sa fille pour s'attacher de plus en plus au mari avec qui elle luttait et dont elle était fière. Elle pardonnait difficilement à Aline sa haine pour ce mari. Mais il y avait des moments de calme au milieu même de la tourmente. Dès que Julien arrivait, tout allait bien. De suite, la petite fille s'était attachée au grand frère, plus âgé qu'elle de 7 ans, qui lui tombait ainsi du ciel. Le collégien s'amusait beaucoup de cette poupée vivante, et la poupée vivante le suivait partout, faisait ses commissions, était heureuse d'une caresse. C'était une adoration toute drôle et un peu touchante. Du reste, tout le monde aimait Julien. Il était si bon enfant, si heureux de vivre, si plein de courage et de verve, que partout, au collège et plus tard au Borda, parmi ses camarades, ses supérieurs ou ses inférieurs, tous l'aimaient. On lui pardonnait ses faiblesses, et on admirait des actions qui, chez lui, paraissaient tout de suite plus héroïques qu'elles ne l'étaient réellement. À son père, il n'avait guère causé qu'un chagrin. Dès l'âge de 12 ans, Julien avait déclaré qu'il serait marin, et il fut marin. C'était une vocation. De plus, Julien, tapageur et insouciant, voyait pourtant clair. Il avait deviné la vie dure des commencements à Paris, les sacrifices acceptés silencieusement par la femme comme par le mari pour payer un loyer trop cher et garder un domestique dans l'antichambre. Il savait que l'on cherchait à faire croire à une clientèle qui n'existait pas, qu'on jetait de la poudre aux yeux. Julien, nature droite, simple, peu complexe, avait l'horreur de la poudre aux yeux. Il fut heureux que sa vocation, vocation très réelle, l'appelât à voguer sur les grandes eaux, au souffle puissant, où les petitesses, les mensonges, les habiletés équivoques d'une vie de Paris sont choses inconnues. Julien, du chef de sa mère, possédait une toute petite fortune qui le rendait indépendant de son père et surtout de la femme de son père. Il aimait bien la belle Madame Bardière, mais il tenait à ne lui rien devoir. Le spécialiste, lorsqu'il arriva à Passy, fut tout étonné du chemin qu'avaient fait ses pensées. Il l'escoua en descendant de son coupé, et certes personne, le voyant au chevet du malade, absorbé par un cas intéressant, donnant son avis avec clarté, précision, intelligence, avis fort écouté de ses confrères, personne ne se serait douté qu'entre la rue du Bac et la rue de la Faisanderie, ses pensées avaient voyagé, d'un coin perdu dans les montagnes neigeuses, un bâtiment de guerre dans les mers de Chine. Personne non plus, voyant la belle Madame Bardière faisant les honneurs de son joli boudoir, ne se serait douté que peu de temps auparavant, les lèvres fières dessein avaient blanchi à l'évocation d'un souvenir terrible. En la voyant si calme, si gracieuse aussi, un peu froide, mais toujours aimable, au milieu des richesses sobres de son merveilleux appartement, les visiteuses s'en allaient pénétrer de ce charme un peu austère d'une vertu inattaquable, une vertu de bon ton, qui était à sa place au milieu de beaux meubles et de tableaux signés de grands noms, une vertu estampillée et qui donnait à ceux qui l'approchaient comme un reflet d'une respectabilité majestueuse où ne se trouvait rien de mesquin ni de bourgeois. Auprès de Madame Bardière, il était impossible de se rappeler les histoires qui avaient circulé dans Paris sur les commencements douteux du spécialiste à la mode, et on les oubliait. Au moment où Madame Bardière monta du rez-de-chaussée au premier, elle trouva deux visiteuses qui l'attendaient. L'une d'elles, après les premières phrases de politesse, s'écria « On nous dit que Mademoiselle Chabrière est enfin revenue de pension. Ce doit être une grande fille maintenant ?» Une grande fille que je vais avoir le plaisir de vous présenter. » Et elle sonna le domestique pour faire appeler sa fille. Est-elle toujours sauvage? Aline n'a pas beaucoup changé. Elle a des accès de gaieté, mais elle est plutôt sauvage, comme vous dites. Le monde corrigera ce petit défaut. Vous m'excuserez de vous la faire voir encore en pensionnaire. Il n'y a que 3 jours qu'elle est revenue et ses toilettes ne sont pas encore prêtes. Mais je compte bientôt donner un bal pour son entrée dans le monde et pour le retour de mon beau-fils Julien Bardière. Notre marin attrapait une fièvre sous les tropiques et on lui accorde un long congé de convalescence. Heureusement, il a une constitution exceptionnelle et il va pouvoir jouir pleinement de son congé qui lui est bien dû. Voilà 2 grandes années qu'il navigue, sans un jour de répit. Viens donc, Aline. » Une jeune fille, fluette et un peu pâle, se tenait sur le seuil sans avancer. Enfin, elle se décida et se laissa présenter aux amis de sa mère qui lui firent 1000 compliments, puis parlèrent d'elle comme si elle n'avait plus été là. Aline Chabrière avait une façon silencieuse de regarder les gens bien en face, comme si elle pesait tout ce qu'on lui disait pour y démêler le vrai du faux. C'était un peu embarrassant. On ne savait pas au juste si la petite silencieuse était timide ou si au fond elle ne se moquait pas des gens. Elle avait alors 18 ans un peu passés et ne semblait guère en avoir que 16, tant elle était frêle et délicate, très blonde, les cheveux abondants et naturellement ondulés, les traits mignons et le teint exquis. Elle n'avait pourtant pas une beauté régulière. Ceux qui l'aimaient la trouvaient ravissante, les autres la flétrissaient d'un mot, elle est insignifiante. À côté de sa mère, dont elle semblait une copie un peu effacée, Aline ne brillait pas. Le babillage des visiteuses, qui bientôt encombrèrent le salon, étourdissait la jeune fille, qui ne savait comment répondre aux avances qu'on lui faisait. Au milieu des toilettes de soie et de velours des amis de sa mère, elle semblait d'une simplicité excessive, avec sa petite robe de laine grise et son ruban bleu clair passé dans les cheveux. Mais cette simplicité lui paraissait toute naturelle. S'il était timide, sauvage plutôt que timide en réalité, ses mouvements restaient parfaitement aisés et gracieux. Le jour d'hiver avait fait place à la nuit, et déjà les salons étaient brillamment éclairés, lorsque le maître de maison entra, s'appuyant affectueusement au bras d'un grand jeune homme qui portait l'uniforme d'enseigne de vaisseau. « Tiens, Julien !» s'écria Madame Bardière. « Voilà une très bonne surprise. Nous ne t'attendions que demain. » Il n'y avait rien de la marâtre dans le baiser tout affectueux de Madame Bardière. Quant au docteur, il n'était plus le même. Sa figure s'était détendue, il rayonnait. Il semblait aimer tout le monde et rendit à Aline le baiser que la mère d'Aline avait donné à son fils, ce qui ne semblait nullement faire plaisir à cette jeune personne. Il aurait volontiers embrassé tout le monde, il était si franchement heureux. Ce fut tout un petit événement. Julien Bardière, un peu étourdi par cette brusque entrée au milieu de ce monde féminin, élégant et souriant qui le dévisageait, reprit vite sa présence d'esprit. Ce n'était nullement un timide que ce beau marin. Il se laissa présenter, complimenter, et encore un peu ébloui par les lumières, il ne vit Aline qui se dissimulait qu'après avoir salué toutes les autres personnes. Elle le guettait pourtant, rose de plaisir, sachant que son tour viendrait, et lui, l'apercevant tout d'un coup, eut une joyeuse exclamation. « Toi, toi, et tu te cachais, méchante, comme te voilà grande et jolie, ma petite Aline !» Il l'embrassa franchement, joyeusement, et de suite, les deux jeunes gens cherchèrent un coin du salon où causer. Ils avaient tant à se dire. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Il est vrai qu'ils s'écrivaient régulièrement toutes les semaines. Quelques jours plus tard, les Bardières lancèrent de nombreuses invitations pour un bal. On parla beaucoup de ce bal à l'avance. On savait que si le docteur et sa femme avaient eu des commencements difficiles, Aline Chabrière, héritière de toute la fortune paternelle, fortune qui, pendant une longue minorité, s'était sensiblement accrue, serait un fort beau parti. Les mères pourvues de fils à marier se firent donner des détails, et les détails furent très satisfaisants. Cette fille, très riche, donna subitement une lueur dorée à la maison du docteur. Beaucoup de ceux qui longtemps l'avaient boudée ne le boudèrent plus. Les salons de Madame Bardière, très vastes pourtant, menaçaient de se trouver trop étroits pour la foule des invités.